rediffusion sur VOA Afrique.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Claire Morin-Gibourg avec vous. Bienvenue dans le monde aujourd'hui. Au sommaire ce soir, 13 civils tués lors d'attaques dans le nord du Burkina. Au Bénin, 3 soldats ont été tués dans l'explosion d'une mine artisanale près de la frontière avec le Burkina. 4 policiers tués lors d'une embuscade dans l'est du Kenya. Au Kazakhstan, le président refuse de négocier et ordonne de tirer pour tuer. Dans un peu plus de 10 minutes, la page sport consacrée à la CAN avec Yacouba Ouédraogo et presque toute la partie magazine sera consacrée à la CAN qui commence dimanche au Cameroun. Mais d'abord, le journal. Au Burkina Faso, au moins 13 civils, dont 2 supplétifs de l'armée, ont été tués par des djihadistes présumés lors de 2 attaques cette semaine dans le nord du pays. Les précisions de Jacques Aristide.
Les attaques ont été perpétrées il y a 2 jours. La plus meurtrière a eu lieu dans le village d'Ankouna, où dans la soirée des individus armés non identifiés ont visé les habitants. D'après le gouverneur de la région du centre-nord, Casimir Asekeda, 11 villageois ont été tués et 1 a été blessé. Des hangars du marché ont également été incendiés. Un élu local indique que l'attaque a été menée par plusieurs dizaines d'hommes lourdement armés et circulant à moto. Toujours mercredi, dans la même région, des individus armés ont perpétré dans la journée une autre attaque à Noaka, tuant 2 volontaires pour la défense de la patrie, des supplétifs civils engagés dans la lutte anti-djihadiste aux côtés des forces de sécurité. Selon le même élu, les terroristes ont incendié des boutiques et des greniers après avoir effectué des tirs dans le marché de Noaka. L'élu ajoute que ces attaques ont occasionné des déplacements de populations fuyant leur village vers la ville de Kaya, le chef-lieu de cette région du Burkina, le centre-nord, qui accueille déjà la majorité des déplacés internes.
En Mauritanie, la justice a accepté pour des raisons de santé de relâcher sous contrôle judiciaire Mohamed Ould Abdelaziz. L'ancien président mauritanien était incarcéré depuis plusieurs mois dans un dossier de corruption présumée. Au Bénin, un véhicule des forces armées a sauté hier sur une mine artisanale à Tanguieta, dans le nord du pays, près de la frontière avec le Burkina Faso. Le bilan fait état de 3 morts et plusieurs blessés. Des précisions avec notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur, à Dandé.
Selon des sources locales, l'explosion s'est produite lorsqu'un véhicule qui transportait des militaires béninois a sauté sur une mine dans la région nord-ouest du pays, déjà sous menace terroriste. On compte 3 décès et des blessés. Les autorités béninoises n'ont pas communiqué sur cette explosion qui est la 4e en moins de 3 mois. La première attaque contre l'armée béninoise a eu lieu le mercredi 30 novembre dernier, 20 micros à l'ouest de la commune de Banikwara. Bilan, un policier décédé. La seconde attaque s'est produite à Porga, dans la commune de Materi, dans la nuit du mercredi 1er décembre dernier. Une position des forces armées béninoises a été attaquée une nouvelle fois par des présumés terroristes près de la frontière avec le Burkina Faso. Une autre attaque avait été perpétrée dans le nord-ouest du Bénin près de la frontière du Burkina Faso le mercredi 22 décembre. C'est une position des forces armées béninoises qui avait été attaquée. Il s'agit de la 3e attaque survenue au cours du mois de décembre dans cette région du nord-ouest du Bénin. Il y a eu des victimes des 2 côtés. De Cotonou, Ginette Fleur, dans les pauvres ou Afrique.
Quelques 145 Camerounais ont été déboutés ce vendredi par la justice française alors qu'ils souhaitaient contraindre le groupe Bolloré à fournir des documents censés établir ses liens avec une société camerounaise qu'ils accusent d'attenter à leurs droits. Selon leur avocat, Fyodor Rilov, l'exploitation des palmeraies par la société camerounaise Soka Palm leur inflige des préjudices au quotidien en condamnant l'accès à des terrains et lieux de sépulture, ainsi qu'en polluant les eaux. Au Kenya, 4 policiers ont été tués vendredi lors d'une embuscade dans la région côtière voisine de la Somalie. Plus de détails avec Ginny Kapumbu-Villa.
L'attaque a eu lieu dans le comté de Lamu, à environ 420 km de Nairobi. Un responsable de la police de Lamu, s'exprimant sous couvert d'anonymat, a précisé que le véhicule était en patrouille lorsqu'il a été touché par un lance-roquettes. L'attaque n'a pas été revendiquée. Le gouvernement avait déployé des renforts dans la région et déclaré un couvre-feu nocturne après le meurtre de 7 civils dans 2 attaques en début de semaine. Depuis son opération militaire dans le sud de la Somalie en 2011 pour lutter contre les islamistes Shebab, le Kenya a subi plusieurs attentats meurtriers, notamment contre le centre commercial Westgate à Nairobi, qui avait fait 67 morts en 2013, et contre l'université de Garissa, qui avait fait 148 morts. Le comté de Lamu, proche de la frontière avec la Somalie, a déjà été la scène de plusieurs attaques. Mercredi, le ministère de l'Intérieur kényan a déclaré que des troubles agitent plusieurs zones du comté de Lamu, ajoutant que les forces de sécurité sont à la recherche d'armes dans la région.
En Éthiopie, Iskander Nega, une des principales figures de l'opposition, a été libérée, a annoncé son parti. Plusieurs responsables de l'opposition avaient été arrêtés en juillet 2020 après une flambée de violence déclenchée par le meurtre le mois précédent d'un très populaire chanteur, Achalu Hundessa, porte-drapeau de l'ethnie Oromo, abattu de plusieurs balles par des inconnus fin juin à Addis Abeba. Le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, s'est félicité ce vendredi du retour de l'ambassadeur d'Algérie à Paris après 3 mois de crise diplomatique, soulignant la volonté de la France de relancer le partenariat avec Alger. Les dossiers majeurs portent sur les enjeux migratoires, économiques et sur la sécurité dans la région, a précisé M. Le Drian. L'Algérie joue un rôle central dans la sécurité régionale, notamment au Mali, où la France est engagée militairement depuis 8 ans contre le djihadisme. Au Sénégal, le calife général des Mourides, Sérigne Muntaka Mbake, un des plus hauts chefs religieux du pays, a déclaré encourager toutes les démarches légales contre l'homosexualité. Le Parlement a rejeté un texte durcissant la répression de l'homosexualité, invoquant le fait que le code pénal sénégalais est déjà très sévère en la matière.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président du Kazakhstan, Kassym Jomart Tokayev, a rejeté vendredi toute possibilité de négociation avec les manifestants et autorisé les forces de l'ordre à tirer pour tuer afin d'étouffer les émeutes qui secouent le pays. Nous faisons le point avec Nanit Talani.
J'ai donné l'ordre aux forces de l'ordre et à l'armée de tirer pour tuer sans sommation, a déclaré le président Kassym Jomart Tokayev, qualifiant d'absurde les appels à négocier avec les protestataires. Il a laissé entendre qu'il ne peut pas y avoir de négociation avec des manifestants qu'il qualifie de criminels et de meurtriers. Nous avons eu affaire à des bandits armés et entraînés. Il faut les détruire et cela sera fait d'ici peu. L'opération antiterroriste se poursuit. Les militants n'ont pas déposé les armes. Ceux qui ne se rendent pas seront éliminés, a-t-il lancé. Le président kazakh a remercié son allié Vladimir Poutine pour son aide après l'arrivée sur place d'un contingent de troupes russes pour appuyer son pouvoir. Il a assuré que l'ordre constitutionnel a été largement rétabli après des jours de violence suite à une hausse des prix du gaz. Les échanges de tirs depuis dimanche ont fait des dizaines de morts et plus d'un millier de blessés, selon les autorités. Plus de 3 800 personnes ont été arrêtées. L'Union européenne et la France appellent à la fin de la violence et à la retenue.
En Afghanistan, les talibans ont appelé la communauté internationale à envoyer une aide humanitaire d'urgence dans le pays, mais qui soit sans aucun parti pris politique. Depuis la chute de l'ancien gouvernement afghan, les pays occidentaux ont coupé le robinet. Les Nations Unies ont prévenu que l'Afghanistan était au bord d'une des pires catastrophes humanitaires. Plus de la moitié des 38 millions d'Afghans risquent d'être touchés par la famine.
La pandémie de Covid-19 poursuit sa flambée dans le monde. Les États-Unis restent de loin le pays avec le plus grand nombre de nouvelles contaminations cette semaine, avec près de 600 000 cas quotidiens devant la France et le Royaume-Uni. Les décès sont restés en baisse, 6 172 par jour dans le monde. Sidney Poitier, acteur de légende et première star noire d'Hollywood, est mort à 94 ans. En 1964, il est le premier Africain-Américain à remporter l'Oscar du meilleur acteur pour Le Lys des Champs. Dans Devine qui vient dîner ce soir, en 1967, il joue le fiancé d'une jeune blanche dont les parents, un couple d'intellectuels, se croient ouverts d'esprit. La rencontre est un choc et a été un des premiers film majeur sur le racisme de l'époque. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Et maintenant, le journal de la CAN, présenté ce soir par Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. Les hostilités de la CAN 2021 commencent ce dimanche 9 janvier avec le match d'ouverture entre le Cameroun et le Burkina Faso, favoris du groupe A. Cependant, des pays comme l'Éthiopie et le Cap-Vert voudront bouleverser la hiérarchie dans cette poule. Depuis Libreville au Gabon, Jules Valentin Ngoué nous fait découvrir les équipes de ce groupe A.
Plus qu'un match d'ouverture, la rencontre inaugurale de ce dimanche entre le Cameroun et le Burkina Faso prend une saveur particulière pour le public sportif camerounais qui, 50 ans après la défaite inattendue de son équipe nationale, face aux Diables Rouges du Congo, lors de la première demi-finale de l'épreuve reine sur ces terres en 1972, renoue avec les sensations d'un match de phase finale de CAN dans l'espoir d'effacer ses souvenirs douloureux. Des souvenirs restés intacts après un demi-siècle. La preuve, alors perché sur les gradins du virage C du tout nouveau stade Amadou Ahidjo, où dans l'euphorie générale j'avais réussi à entraîner ma mère, je revois encore la phase de jeu qui plongea tout un pays dans un traumatisme sans précédent. Sur un deuxième ballon précipitamment renvoyé par le rugueux latéral gauche camerounais Evou, le médian congolais Noël Mingapépé récupérait et contrôlait dans les 25 mètres devant le capitaine V. Emmanuel et le parisien Jean-Pierre Coteau sur le reculoir, avant d'ajuster le portier Mbengalap légèrement masqué. Nous n'étions qu'à la 31e minute de jeu, mais le sort de la rencontre venait d'être scellé. Ceci malgré les tentatives infructueuses de l'avant-centre Joseph et du libéraux Lane Paul montés aux avant-postes. La tragique défaite de ce 2 mars 1972 est une des raisons qui ont amené le Cameroun à organiser cette CAN de rédemption en espérant démontrer, en cas de victoire finale, que le quintuple champion d'Afrique sait aussi gagner chez lui et par la même occasion se rapprocher du record égyptien. Le casting qui lui est proposé dans le groupe A, avec une Éthiopie plus spectaculaire que réaliste, un Cap-Vert plus combatif qu'inspiré, ainsi qu'un Burkina Faso en pleine reconstruction, apparaît abordable, ce qui pourrait aider le Cameroun à garder la tête du groupe, une condition indispensable pour cette équipe de transition qui aurait alors l'occasion de prolonger une période de rodage avant des possibles quarts de finale où le niveau se relève automatiquement. On le voit, le match d'ouverture nous plonge déjà dans la compétition réelle, ce qui ne manque pas d'intérêt. À dimanche.
Merci Jules. Cette CAN ouvrira donc dimanche dans un contexte sécuritaire tendu au Cameroun. Le pays accueille le tournoi dans 6 villes, mais la sécurité est potentiellement la plus menacée à Limbé, une ville dont la région a été secouée par des attaques armées depuis le début du conflit en 2017. Entre bonne affaire et peur d'attaque, la vie à Limbé s'adapte au rythme de l'événement. À venir, Nanit Talani.
La mascotte de la CAN 2021 est sortie et les forces de l'ordre ont positionné leurs véhicules blindés à des points stratégiques. Ici, c'est Limbé, l'une des villes du Cameroun qui accueille la Coupe d'Afrique des Nations. Elle est frappée par des années de violences séparatistes. La sécurité s'est récemment détériorée alors que les groupes armés ont accru leur utilisation d'explosifs improvisés, ce qui inquiète des personnes comme le journaliste Honoré Kouma, basé à
Limbé.
La crainte de nombreux habitants de Limbé, c'est que le récent phénomène d'explosion de bombes qui s'est produit dans d'autres parties de la préfecture du Fako, comme Boué, peut être un phénomène courant pendant cette période-là.
Limbé est situé dans le sud-ouest, l'une des deux régions anglophones l'autre étant celle du Nord-Ouest, où des groupes armés tentent de former un État indépendant. Les matchs du groupe F, comprenant la Tunisie, le Mali, la Mauritanie et la Gambie, se dérouleront au stade Omnisport de Limbé. Emmanuel Ledoux Ngamba, préfet du FACO, précise que la CAN se déroule dans le même contexte que le championnat d'Afrique des Nations, CHAN, organisé au Cameroun en 2020.
C'est dans ce même contexte que nous avons géré le CHAN il y a quelques mois. Donc, je ne saurais dévoiler ici les mesures qui sont en train d'être mises en place. Mais sachez que, comme le CHAN s'est passé dans de très bonnes conditions, la CAN se passera également dans de très bonnes conditions.
Mais malgré les craintes, certains à Limbé sont prêts à accueillir de nombreux fans dans la ville. C'est le cas de Nelson Itoué qui compte sur une nombreuse clientèle pour vendre davantage de poissons.
Avec un tel événement, nous pensons que cela va faire prospérer notre entreprise parce que tant que des clients viendront de différentes régions, différentes villes, différents pays, nous rencontrerons tellement d'autres personnes, des nouveaux amis. Je suis très heureux de l'événement.
Un bonheur partagé par les nombreux clients de Nelson qui savourent pleinement son poisson braisé en attendant l'ouverture de cette CAN. Les autorités promettent qu'il n'y aura pas de perturbations pendant le tournoi.
Merci Nanit. C'est ici que se referme cette page du jour consacrée à la Coupe d'Afrique des Nations. VOA Afrique vous souhaite une très belle fête africaine du ballon rond et partagera ce bonheur footballistique avec vous à travers cette page spéciale durant toute la compétition.
Merci Akuba. Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Claire Morin-Gibourg toujours avec vous. Place au dossier du jour. Nous sommes à 72 heures du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations de football qui va se jouer au Cameroun. Cette année, le Covid-19 s'est invité dans la compétition avec son lot de contraintes sanitaires. À cause de la pandémie, l'enthousiasme n'est pas très grand pour aller au stade. De Yaoundé, le reportage de notre correspondant Emmanuel Julentap.
Le protocole sanitaire en raison de la pandémie du coronavirus va s'imposer à toutes les délégations officielles et aux spectateurs durant la Coupe d'Afrique des Nations de football. Le ministre de la Santé publique, Malachi Manaouda, se montre ferme à ce sujet.
L'accès aux stades, aux fan zones, aux hôtels de joueurs et délégations seront donc conditionnés à la preuve d'un pass sanitaire valide. Ce dispositif s'appuie sur plus de 2500 personnels qui vont tester, contrôler autant de spectateurs qu'il le faut. Les équipes du ministère de la Santé publique, déployées à toutes les portes d'entrée de notre pays, seront chargées d'effectuer les contrôles d'authenticité des tests PCR négatifs exigés au débarquement des passagers et de faire systématiquement des tests rapides antigéniques additionnels à tout le monde.
Des postes de vaccination et de tests au Covid-19 ont été multipliés sur les 6 sites du tournoi. Chaque spectateur doit présenter un pass sanitaire imprimé avec un code QR. La CAF et le comité local d'organisation de la CAN ont décidé mardi dernier de plafonner entre 60 et 80% la capacité des stades. Mais cette jauge ne motive toujours pas les supporters à se faire vacciner afin de pouvoir suivre les matchs au stade.
Il faudrait qu'on nous explique encore pourquoi on se vaccine ? Parce qu'il y a plein de Camerounais qui refusent de le faire.
On ne se fait pas vacciner parce qu'on a entendu que l'autre s'est fait vacciner. Il faut déjà savoir ce que c'est que le vaccin et la maladie. Donc je prends tout mon temps.
Les personnes qui n'iront pas au stade peuvent vivre la CAN à partir des fan zones de la CAF. Deux ont été créés à Yaoundé. Emmanuel Ndiawa, président de la commission culturelle et manifestation pour le site de Yaoundé au Limbé.
L'exigence du pass sanitaire se fera avant l'entrée sur le site, c'est-à-dire un carnet de vaccination, et également un test négatif. Pour cela, on a installé deux postes de testing tout autour du site. Une fois que c'est fait, la capacité d'accueil elle est assez grande. Nous avons pris disposition pour accueillir le maximum de personnes.
La plupart des équipes ont rejoint leur base et les pronostics vont bon train côté public sportif au sujet des favoris de la compétition.
Il y a des pays favoris, il y a l'Algérie, il y a le Maroc. Voilà, on ne sait pas. Bon, il n'y a pas de petites nations actuellement.
Je sais que le Cameroun est le plus grand favori de cette compétition.
Il y a l'Égypte, il y a l'Algérie, il y a le Sénégal du Grand Stadium Mané avec Edouard Mendy. Il y a aussi la Tunisie.
Après 4 reports, la vente des billets d'accès au stade a finalement débuté hier. 40 000 supporters pourraient assister au match d'ouverture qui va mettre aux prises dimanche le pays hôte au Burkina Faso. Yaoundé, Emmanuel Jumdap, VOA Afrique.
Toujours concernant la CAN, les officiels camerounais se sont joints à des centaines de musulmans et de chrétiens à Yaoundé pour prier pour la paix. La compétition commence dimanche à travers le Cameroun, y compris dans les régions anglophones où les séparatistes ont juré de perturber les matchs. Un reportage de Moki Edwin Kinzeka à Yaoundé avec le récit d'Abdourahman Dia.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen.
L'imam Souleymane Bouba de la mosquée Tchinga de Yaoundé prie pour la paix au Cameroun. Au cours des prières du jeudi, il a demandé à Dieu de protéger les joueurs, les supporters et les officiels qui viennent au Cameroun pour la Coupe d'Afrique des Nations de football. Parmi la soixantaine de religieux musulmans et chrétiens présents, figurait Monseigneur Jean Barga, archevêque de Yaoundé.
L'avènement de la CAN est aussi l'avènement des nouveaux Cameroun qui croient en la paix, en l'unité et à la fraternité. C'est déjà une première victoire. Nous avons aussi prié pour les joueurs, les athlètes, les compétiteurs, afin que ce soit une vraie fête, une vraie kermesse sportive où chacun apportera son talent et nous donnera la joie de leur capacité à exprimer leur fraternité. Leurs compétences ainsi que leur art, l'art du football que les Camerounais aiment tant. Et nous croyons que cette année va nous apporter bonheur.
Selon lui, c'est l'Association camerounaise pour le dialogue interreligieux qui a organisé la prière. Le Premier ministre Joseph Dion Nguté y a représenté le président Paul Biya. L'Association pour le dialogue interreligieux a déclaré qu'au moins 400 civils, 20 ministres et hauts fonctionnaires ont assisté à la prière. Le Cameroun accueille du dimanche au 6 février le plus grand tournoi de football africain. Les séparatistes anglophones menacent de perturber les Jeux. Ils ont prévu que les villes de Limbé et Boya ne sont pas sûres. Ces villes vont accueillir des matchs de groupe pour les équipes de Gambie, du Mali, de la Mauritanie et de la Tunisie. Les séparatistes ont déclaré jeudi avoir fait exploser une bombe en bordure de route à Half Mile, un quartier de Limbé. Capo Daniel est un des leaders indépendantistes.
The Cameroon government have drawn our forces into those venues.
Le 30 décembre, nous avons planté un engin explosif improvisé à Half Mile. Aujourd'hui, jeudi, encore une fois, nous avons planté un autre engin piégé pour envoyer un message à tous les visiteurs qui viennent regarder les matchs de football pour qu'ils comprennent qu'ils se mettent en danger.
L'armée camerounaise a confirmé l'explosion de jeudi à Limbé, mais l'a qualifiée de tentative isolée d'effrayer les fans de football, les joueurs et les officiels. Le gouvernement a déclaré qu'il n'y avait pas de victimes, mais a appelé les civils à collaborer avec l'armée en signalant les combattants présumés dans leur communauté. Le président Biya a appelé la semaine dernière les populations à voir la Coupe d'Afrique des Nations comme une opportunité pour tourner une nouvelle page dans le pays qui a subi tant de crises.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2. Enfin, toujours sur la 33e Coupe d'Afrique des Nations qui débute dimanche au Cameroun. Elle a été retardée d'un an à cause de la pandémie de coronavirus. Le Nigeria est présent dans le groupe D qui comprend aussi l'Égypte, cette fois championne, le Soudan et la Guinée-Bissau. Quelles sont les attentes des Nigérians? Un reportage de Gilbert Tamba, notre correspondant à Abuja.
L'équipe nigériane de football ouvre dimanche sa campagne contre l'Égypte au stade Roumdé Adjia de Garoua. Troisième de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, le Nigeria vise désormais le sacre final avec le sélectionneur par intérim Augustin Egoan aux commandes. Quelques supporters des Super Eagles peuvent se consoler du fait que le football défie toujours les prédictions des experts. Mais les avis sont partagés entre espoir et inquiétude. Témoignage.
Concernant nos chances, c'est très simple. Si vous jouez avec les gens qui ont gagné plusieurs fois, ils ne connaissent pas vos nouvelles stratégies, votre formation, vos préparatifs. Et vous aviez aussi regardé les vidéos de leurs matchs pour quelque temps. Donc, vous aviez découvert leurs faiblesses. Ce qu'il vous reste à faire, c'est de travailler pour pouvoir les gagner.
Contrairement à mon avis, l'Égypte n'est pas une menace, mais j'ai peur de la Guinée-Bissau. Vous le savez, ils ne sont pas encore au sommet et ils vont jouer contre un géant de l'Afrique que nous sommes. La vérité est qu'ils vont se battre sérieusement. Ces deux pays, la Guinée-Bissau et le Soudan, vont se battre sérieusement contre le Nigeria.
Malgré les tentatives des clubs européens d'empêcher les joueurs africains de représenter leur pays à la CAN, 24 joueurs nigériens sur une liste de 28 ont effectué le déplacement de Cameroun. Zico a suivi de près les séances d'entraînement des Super Eagles.
Nous avons quelques soucis pour l'équipe parce que certains joueurs invités ne sont pas venus, comme Denis qui n'a pas été libéré par Watford. Et aussi même. Mais malgré tout, nous gardons de l'espoir, au moins pour les quarts de finale. Les demi-finales seront un plus pour nous.
Les Nigériens passionnés de football sont aussi inquiets de limogeage du technicien allemand Kenneth Rohr à un mois de l'ouverture de la compétition. Le nouveau sélectionneur ne prendra fonction qu'après la Coupe d'Afrique des Nations. Chinedu Onemo est analyste sportif.
Oui, je suis au courant qu'ils ont recruté un sélectionneur étranger qui va commencer au mois de mars prochain. C'est très bien tout cela. Mais pour moi, je pense qu'il est temps qu'on commence à nous regarder en face, au moment où les Africains vont commencer à apprécier ce que nous possédons et commencer à exploiter leurs propres talents, ils seront plus libres et le plus tôt sera le mieux.
La Fédération nigériane de football a choisi le Portugais José Peseiro pour diriger la sélection nationale. Le technicien de 61 ans est présent au Cameroun pour observer les Super Eagles durant la CAN 2021 avant de prendre les commandes après la compétition. Gilbert Tamba, Abuja pour VOA Afrique.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, c'est VOA Afrique, 24h sur 24.
Au Mali, des militaires russes se déploient petit à petit, notamment au centre et dans le nord du pays. À Tombouctou, plusieurs sources confirment la présence de ces forces russes à l'aéroport de la ville. Ils cohabitent désormais avec les militaires maliens qui occupent l'ancien camp des forces françaises. Depuis Tombouctou, la correspondance d'Alousseini Aladji.
Une chose est sûre, la présence militaire ne fait plus l'objet de doutes. Même s'ils se font discrets, plusieurs sources confirment le déploiement des militaires russes à l'aéroport de Tombouctou. Une présence que les autorités maliennes ne veulent pas évoquer. Et la question de la firme Wagner, la société privée russe, est un sujet presque tabou. En début de semaine, une attaque qui a visé les forces armées maliennes dans le centre du pays a touché des militaires russes dans le même convoi que les militaires maliens. On parle d'au moins un blessé dans les rangs des Russes. Les Russes sont bien présents à l'aéroport de Tombouctou. Nous y cohabitons depuis quelques jours. Nous nous voyons même au camp de l'aéroport. Cependant, je ne saurais dire leur nombre exact, précise un militaire malien en poste à l'aéroport de Tombouctou. En ville, le débat sur la présence russe alimente déjà les espaces de causerie entre jeunes. Même si certains n'ont pas eu de confirmation physique, ils saluent cette présence russe. D'autres voient dans ce déploiement une alternative au départ de la force Barkhane. D'autres, comme Amadou Diagne Traoré, voient dans ce déploiement une alternative au départ de la force Barkhane.
Nous avons appris ces dernières heures, via les réseaux sociaux, la présence à Tombouctou des instituts terroristes ou des soi-disant Wagner. Nous, en tant que jeunes, on reste optimistes. Nous allons observer pour voir dans les jours, les semaines, les mois à venir, ce qui va être fait en termes de nouveau. Si toutefois Wagner est capable d'amener la sécurité, parce que notre souhait actuellement à Tombouctou, c'est de vivre dans un climat sécurisé qui est favorable à tout développement.
Certains évoquent également les prouesses technologiques des Russes en matière de guerre.
Bon, l'arrivée des Russes, dès qu'ils sont là, on peut avoir la paix immédiatement. Mais si on prend l'exemple, les Français qui sont là depuis une dizaine d'années, la paix ne revient pas, les Maliens ne se sont pas insécurisés. Mais avec les Russiens, on souhaite que la paix revienne, qu'ils ne soient pas comme les Blancs, les Français. Mais ce que la population, certains pensent que les Russiens, ils sont plus, en technologie, ils sont plus avancés que les Français. C'est pour cette raison que beaucoup de gens préfèrent les Russiens que les Français.
Du côté de Bamako, les autorités n'ont toujours pas confirmé la présence de la société privée russe Wagner. Elle parle plutôt de formateurs russes présents aux côtés des forces armées maliennes. Le mois dernier, 15 pays occidentaux avaient dénoncé la présence militaire russe au Mali. En République centrafricaine, où opère la société privée russe Wagner, l'Union européenne a mis fin à sa formation de forces armées centrafricaines. Pour VOA Afrique, Al-Husseini Al-Hagi, depuis Tombouctou.
La fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à Georges Léonard Sagnot qui a permis la réalisation de ce journal. Au micro, Claire Morin-Gibourg. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations 24h sur 24, un seul site internet, voaafrique.com. Sans oublier nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram, bien sûr. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.